Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un homme qui aimait les femmes, qui attirait les femmes, certaines femmes, par son génie, bien sûr, par sa nature affectueuse, par ses faiblesses. Cet homme pouvait-il être aimé par une femme délicate ? Les controverses sur cet amour, réel ou non, désintéressé ou non, sont contemporaines des dernières années, des derniers mois de la vie d'Honoré de Balzac. Octave Mirbeau ne fut pas le seul à bâtir des romans sur l'étrangère, épousée quelques mois avant la mort de l'auteur de la Comédie humaine. Une conférence signée André Mauroy et dont le titre était en lui-même tout un roman, Y a-t-il un mystère, Ève Anska, témoignait des interrogations, pas toujours désintéressées, elles non plus, et peu amicales, qui couraient alors dans Paris. Une conférence diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 mars 1951.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, y a-t-il un mystère, Anska ? Les auteurs ont posé au sujet de Madame de Balzac bien des questions qui sont restées sans réponse. Aimait-elle vraiment Balzac quand elle l'épousa ? L'avait-elle jamais aimé ? Ne fit-elle pas son malheur ? N'était-elle pas enfermée avec un amant tandis que Balzac agonisait ? Ces controverses ne sont pas terminées. Morte, Ève Anska eut encore ses défenseurs, j'allais dire ses adorateurs, notre maître Marcel Boutron, prince des Balzaciens, et ses accusateurs, comme Octave Mirbeau et Stéphane Zweig, cependant que André Billy, Pierre Descaves, de leur fauteuil de juge, tentaient de résumer les débats. Nous allons essayer, vous et moi, qui sommes aujourd'hui le jury, de traiter équitablement ce problème sentimental. Mais auparavant, nous devrions prononcer un autre jugement sur un mystère plus profond et plus important, c'est celui de Balzac lui-même. Balzac pouvait-il être aimé par une femme délicate ? Si nous acceptons l'image obsédante et fausse que nous ont imposée des confrères jaloux ou des amis maladroits, celle d'un garçon joufflu, vantard, ventripotent, faiseur de boniments comme l'illustre Gaudissart, et pour tout dire vulgaire, d'âme et de corps, alors non, Balzac n'aurait pas été digne d'être aimé. Mais s'il avait été ainsi, et seulement ainsi, Balzac n'aurait jamais écrit la Comédie humaine, ce n'est donc pas sous cet aspect qu'il faut l'imaginer. À la vérité, il suffit de lire Louis Lambert ou Le Lys dans la vallée, pour comprendre que Balzac fut un enfant malheureux, sensible, merveilleusement intelligent et avide d'apprendre, puis un adolescent tendre et mélancolique à la recherche d'un amour maternel que sa mère lui avait refusé. Balzac fut aussi le collégien pauvre qui souffrait du mépris de camarades plus riches, ce qui explique un besoin de revanche sur le plan de la fortune et de la gloire. S'il se vante, eh bien, c'est qu'il doute de lui. « Je souffrais, dit-il, par tous les points de l'âme où la souffrance arrive, et il n'y a que les âmes méconnues et souffrantes qui sachent observer parce que tout les froisse. » Ceci est tragique et profond. S'il s'attache à des femmes aristocratiques, c'est qu'ayant été humilié par leur prestige, il s'est juré de vaincre leur dédain. À quoi il réussira ? Car il les attire à la fois par sa faiblesse, Madame de Berny, puis Madame Anska, sentent qu'il a besoin de leur tendresse, par son génie et par sa nature affectueuse. Balzac fut digne d'être aimé parce qu'il était aimant, c'est un premier point. Second point, la faconde de Balzac n'était pas du tout, comme on l'a dit, celle d'un Gaudissart, mais celle d'un homme qui a fait dès l'adolescence d'immenses lectures et qui a une miraculeuse imagination. Les rêves de Balzac ne sont ni fous ni absurdes. Il est un visionnaire, il comprend tous les mondes, il a l'instinct des sociétés, il possède au plus haut point le sens du sublime. Madame de Berny lui en a donné une première image à laquelle il restera fidèle. Enfin, troisième point, l'aspect physique. À 30 ans, l'homme Balzac pouvait et devait plaire. On ne voyait d'abord que ses yeux, et ils étaient admirables. C'était, dit Théophile Gautier, des yeux à faire baisser la prunelle aux aigles, à lire à travers les murs et les poitrines, à foudroyer une bête fauve furieuse, des yeux de souverain, de voyant, de dompteur. L'expression du visage était joyeuse et puissante. Il me rappelait, dit Lamartine, ces aimables curés de campagne de l'Ancien Régime, avec quelques boucles de cheveux sur le cou et toute la charité joviale du christianisme sur les lèvres. Est-ce que ce n'est pas un portrait admirable? En vérité, j'enrage quand, pour décrire un homme de génie, on commence par oublier le génie. Que Proust, au sortir de ses somnifères, est paru parfois occupé de détails sans grandeur, sans doute cela est vrai. Mais l'existence d'un chef-d'œuvre nous oblige tout de même à creuser plus profondément. Si Proust n'avait pas été Proust, Swann n'aurait jamais été Swann. Que Balzac, dans les lettres à Madame Hanska, apparaisse page après page, obsédé par des additions de dettes, des spéculations chimériques ou des polissonneries naïves, c'est possible, c'est même certain. Seulement, le même homme, au même moment, écrivait le père Goriot, la cousine Bette, le cousin Ponce. Il savait donc tout de la nature humaine. Cela nous contraint à reconsidérer nos jugements. Il n'y a au fond qu'un mystère Balzac, c'est la prodigieuse étendue de son génie. Par ce génie, Balzac était digne d'être aimé, et par n'importe quelle femme. Nous allons voir maintenant s'il le fut. Esquissons un bref tableau de sa vie sentimentale vers 1832. L'inspiratrice au grand cœur qu'il avait instruit, formé, soutenu, Lord de Berny, veillait encore sur lui. Mais vieillie, malade, elle ne pouvait plus satisfaire aux exigences d'un homme jeune et triomphant. C'est le temps où Balzac commence à devenir le romancier favori des femmes, où de toutes parts des inconnus lui écrivent et s'émerveillent de la connaissance qu'il a de leur sexe, science qu'il doit pour une part à Madame de Berny, pour une autre à Madame d'Abrantès, pour une plus large encore à ses propres intuitions. L'une de ses pressantes admiratrices vers ce temps-là retient son attention, c'est Madame de Castres. Cette blonde marquise, plus tard duchesse, née Henriette de Maillé, séparée de son mari, est entrée dans la vie de Balzac en lui écrivant une lettre non signée. Elle l'a touchée par une adulation à droite, mais aussi parce qu'elle est la fleur du faubourg Saint-Germain. Il y a en Balzac, comme en Proust, un élément de snobisme, et cela est naturel. Tous deux éprouvent, pour des raisons différentes, un besoin de revanche sociale. Tous deux savent ou devinent ce que pourra leur apporter ce monde-monde qui est le véritable creuset des passions. À Madame de Castres, Balzac devra une précieuse étude, celle de la coquette, car cette blonde languissante est de celles qui s'offrent, permettent de grandes privautés, pour finir par se refuser. Elle affole Balzac, elle le rend très malheureux, mais par là, elle lui apporte un grand sujet. C'est en février 1832, au moment où Madame de Castres, chatte assez cruelle, joue avec lui, qu'il reçoit de Russie la première lettre d'une nouvelle inconnue, lettre élogieuse, brûlante et plaintive. Nul n'a pu comprendre l'âme de feu qui embrasait tout mon être, écrit cette femme. Vous me comprendrez, vous, vous sentirez comme moi que je devais aimer une fois, une seule fois, et si je n'étais pas comprise, végéter et mourir. En ce temps-là, Balzac espérait encore conquérir Madame de Castres. Il lui montra sans doute la lettre de l'étrangère, mais ne chercha pas à savoir qui était celle-ci. S'il avait pu percer le mystère de cet anonymat, il aurait découvert que l'inconnue semblait créée par la Providence pour répondre aux exigences diverses du plus romanesque des romanciers. À son snobisme, d'abord, car elle était née Jebuska, d'une très noble famille polonaise, parente des Czartoryski, des Potocki, et même des Leczinski, par conséquent alliée à la famille royale de France. À son goût des richesses fabuleuses, car elle avait épousé un comte Wenceslas Hanski, maréchal de la noblesse de Voligny, et seigneur d'immenses domaines. Le domaine de Wierzchownia seul représentait 21 000 hectares de terre, 3 035 âmes, et l'on évaluait la fortune de ce vieux mari à 25 millions de roubles. Au besoin de son esprit, car sans être très intelligente, elle n'écrivait pas mal, si on tient compte du jargon romantique, elle montrait au moins de l'imagination et de la lecture, et enfin à la sensualité de Balzac, car elle avait de beaux traits, un teint blanc et rose, et de la grâce dans la dignité. On se souvient des rages et des déconvenues de Balzac au cours de cette année 1832. Madame de Castres l'avait traîné à Aix, puis à Genève, lui avait fait tout espérer, permis baisers et caresses, et puis une fois encore, l'avait humilié en se refusant. D'une promenade avec elle à la villa Diodati, il était redescendu à Genève en pleurant. La veille, dit-il, j'étais tout pour elle, le lendemain, je n'étais plus rien, il aurait voulu se venger, la faire haïr par le monde entier. Et il demeurait en novembre 1832 dans cet état de rage impuissante quand il reçut une seconde lettre de l'étrangère. En lisant vos ouvrages, disait-elle, mon cœur a tressailli. Vous élevez la femme à sa juste dignité. L'amour chez elle est une vertu céleste, une émanation divine. J'admire en vous cette admirable sensibilité d'âme qui vous l'a fait deviner. Votre génie me semble sublime. Il faut qu'il devienne divin. Que de fois j'ai désiré me voir près de vous lorsque ces pensées profondes que vous dépeignez si bien vous animer. C'était un début de roman tel qu'il les aimait, et c'était peut-être la vengeance. Car la mystérieuse correspondante lui donnait cette fois un moyen de répondre, mais il fallait que ce fût par un entrefilet, dans le seul journal français qui pénétra en Russie, La Quotidienne. Car on, c'est-à-dire elle, vivait dans l'esclavage, ce qui veut dire en bon français qu'on était surveillé par un mari. Nous verrons plus tard que cet esclavage n'était pas bien cruel. Bientôt, l'étrangère donna une adresse à laquelle il était permis d'écrire et elle révéla qu'elle était comtesse Anska, noble et riche. Balzac commença de cristalliser sur ses données. De son côté, elle s'inquiéta de la vie sentimentale de Balzac. Elle reçut l'assurance que ce cœur n'avait encore été connu d'une seule femme au monde, qui était Madame de Verdi. Et de la meilleure foi, il se mit à écrire des lettres brûlantes à cette femme qu'il ne connaissait pas. « Si vous saviez avec quelle force une âme solitaire et dont personne ne veut s'élance vers une affection vraie. Je vous aime, inconnu. Je suis comme un prisonnier qui, du fond de son cachot, entend au loin une délicieuse voix de femme. » Était-il sincère ? Mon Dieu, à la minute où il écrivait, il était sincère. Il ne la connaissait pas. Et qu'est-ce que ça fait ? En amour, la bien-aimée est toujours une construction de l'esprit, bâtie sur un frêle support physique. Dans le cas de l'étrangère, le support était épistolaire, donc plus fragile encore, mais la liberté de construction en était plus grande et l'attrait du mystère plus vif. Toutefois, en amour comme à la guerre, pour conclure de près, pour conclure, il faut se voir de près, et les deux auteurs de cette comédie souhaitèrent vite une rencontre. Celle-ci n'était pas du tout impossible, car le comte Anski conduisait assez souvent sa femme en Europe. Anna, fille de la comtesse, avait une institutrice suisse, Henriette Borel, qui était originaire de Neuchâtel, et ce fut dans cette ville de Neuchâtel en Suisse que l'étrangère choisit de se dévoiler à son illustre adorateur. Balzac partit secrètement. À sa mère, comme à Madame de Berny, il donna pour prétexte un achat de papier. La prudence l'emportait temporairement sur la vanité. Et comment allait-il reconnaître cette bien-aimée qu'il n'avait jamais vue ? Elle lui avait écrit « Un instinct d'âme me fait pressentir votre être et je dirais le voilà si je vous voyais. » Mais la vie n'est pas comme ça et les êtres ne ressemblent jamais à l'image qu'on s'en fait. Il y a de cette double surprise de Neuchâtel plusieurs versions. Que ce soit à une fenêtre de l'hôtel ou dans un jardin public ou sous une tonnelle, Balzac vit une jeune femme un peu grasse, de traits assez beaux, or la difficulté qu'avait un de ses yeux à se rapprocher de l'autre. Avec un air de hauteur, mais aussi de très agréable sensualité, Elle lisait un roman de lui et le laissa tomber en l'apercevant. « Que doit-elle penser de moi ?» fut une phrase de fou que j'ai redite avec terreur, lui écrivit-il plus tard. Elle avoua, quelque temps plus tard, qu'elle avait été déçue. Balzac était trop corpulent et aussi trop bruyamment vêtu pour répondre à tous les rêves de sa lectrice. Mais les yeux étaient admirables, mais le génie brillait dans tous ses propos, mais la sincérité de l'amoureux semblait évidente, elle l'accepta tel qu'il était. Quant à lui, il était enivré. « L'essentiel, écrivit-il à sa sœur Laure, seule confidente, l'essentiel est que nous avons 27 ans, que nous sommes belles, que nous possédons les plus beaux cheveux noirs du monde, la peau suave et délicieusement fine des brunes, que nous avons une petite main d'amour, un cœur de 27 ans naïf, imprudente au point de se jeter à mon cou devant tout le monde, je ne te parle pas de richesse colossale, qu'est-ce que cela devant un chef-d'œuvre de beauté que je ne puis comparer qu'à la princesse de Belle-Joyeuse et infiniment mieux. Un œil traînant qui, lorsqu'ils se mettent ensemble, devient d'une splendeur voluptueuse, j'ai été enivré d'amour. Il faut noter les 27 ans. Elle le lui avait dit. C'était pas vrai. On verra que ce détail est très important pour la suite de l'histoire. Elle avait en fait 33 ans, étant née en 1800. Balzac en amour était pour de solides réalités, mais le moyen de conclure dans une petite ville comme Neuchâtel, quand un damné mari ne vous quitte pas, pendant 5 jours, d'une seconde. Il allait de la jupe de sa femme à mon gilet. J'étais comme dans un four. Outre le mari, elle lui opposait la religion. Elle voulait aller consulter son confesseur. Balzac protestait. Mais vous confessez de quoi? Enfin, ayant dépêché le mari tôt pour commander le déjeuner, ils arrivèrent à rester seuls quelques instants au milieu du lac de Bienne, dans cette île Saint-Pierre qui avait été un des pèlerinages favoris de Jean-Jacques Rousseau. Et là, ils échangèrent le premier baiser. Là, j'ai eu 11 ans de moins. Là, j'ai vu combien j'aimais. Madame Anska ne fut pas, semble-t-il, la maîtresse de Balzac à Neuchâtel dès octobre 1833. Mais ils en étaient pourtant au tutoiement. Mon amour chéri, en arrivant, j'ai trouvé ta chère lettre. Ô mon âme, sais-tu bien le plaisir qu'elle m'a fait. Elle lui envoya, dès qu'il fut rentré à Paris, une mèche de cheveux, en exprimant le regret qu'il ne l'eût pas demandé. Il semble aussi qu'elle ait eu quelque rancune d'avoir été si bien respectée à Neuchâtel, car Balzac doit se défendre contre ses reproches. Mauvaise. Tu n'as pas vu dans mes regards tout ce que je souhaitais? Oh, sois tranquille, tous les désirs qu'une femme qui aime est jalouse d'inspirer, je les ai ressentis. Et si je ne t'ai pas dit avec quelle ardeur je souhaitais que tu vinses un matin, c'est que je m'étais si bêtement logé. Mais à Genève, ô mon ange adoré, à Genève, j'aurai pour notre amour plus d'esprit qu'il n'en faudrait à 10 hommes pour être spirituel. Car il avait juré de la rejoindre à Genève en décembre, et bien qu'accablé de travaux et de dettes, il fut fidèle au rendez-vous. Entre-temps, il lui avait envoyé, ostensiblement, c'est-à-dire par son mari, le manuscrit d'Eugénie Grandet. Il s'agissait de donner au mari l'impression d'une amitié pure et littéraire, ce qui est une ressource bien précieuse pour les hommes de lettres. Il se logea dans une auberge voisine de la maison où vivait Léanski. Elle vint l'y rejoindre la nuit et il fut heureux. Il avait maintenant sa revanche des mépris de Madame de Castres. Sa maîtresse polonaise était plus noble que la marquise, puisqu'elle y est à Louis XV, 10 000 fois plus riche, aussi sensuelle que l'autre était de glace. Et d'ailleurs, ce fut toujours là le lien le plus durable entre Balzac et Evelyn Anska. Elle aimait l'amour, son vieux mari ne l'avait pas comblé. Sans doute avait-elle dû être prudente en Russie, où son rang de châtelaine rendait public toutes ses actions. De Balzac, elle fut tout de suite amoureuse et jalouse. Il jura fidélité. « Dans ma vie à venir, il n'y a plus que toi et le travail. » Il aurait dû écrire que le travail est toi. Car le travail restait au premier rang. Pendant ces 43 jours de bonheur à Genève, il trouva un très vif plaisir à terminer, près de Madame Anska, le roman où il exécutait Madame de Castres. Roman qui s'appelait alors « Ne touchez pas à la hache » et qui allait devenir la duchesse de Langeais. C'est un des très beaux exemples littéraires qui illustre la phrase de Valéry, « Un écrivain se récompense comme il peut de quelque injustice du sort ». Cette fois, la récompense était double et complète. Les caresses de la brune potelée le consolaient des dérobades de la blonde pointue. Et le général de Montriveau marquait au fer rouge l'héroïne en laquelle Balzac avait incarné son ennemi la plus intime. La victoire de l'homme complétait celle de l'artiste. On imagine avec plaisir cette idylle genevoise, le grand homme dont la vie avait été et allait être si dure, eut là ses jours d'enchantement et de délire, il partit riche de souvenirs et de projets. Balzac revenait-il à Paris, transformé par un de ces amours qui bouleversent une vie et qui rendent un homme aveugle au charme de toutes les autres femmes? Non, il était fier et heureux de cette conquête, et sans doute, étant donné l'âge du comte Anski, rêvait-il vaguement à quelque future union qu'il ferait à la fois heureux et richissime. Evelyne elle-même lui avait permis ce confus espoir, il y avait en quelque sorte promesse de veuvage. Mais de même que le romancier pouvait composer à la fois plusieurs ouvrages, l'homme Balzac était incapable de résister à de multiples tentations. Ce fut fort peu de temps après le retour de Genève qu'il s'éprit de la comtesse Guidoboni Visconti, une blonde anglaise, hardie et facile, qui avait épousé un Italien, habité Versailles, et dont il fit pour une part le personnage de Lady Dudley dans le Lys dans la vallée. Un peu plus tard, Balzac partit pour l'Italie, accompagné d'une femme de lettres, Caroline Marbouti, en littérature Claire Brune, qui voyageait avec lui, déguisé en homme. Il était donc, en somme, peu fidèle à l'étrangère. Mais quoi ? Il avait des besoins sensuels, et sa maîtresse était loin, et surtout, il apercevait mal la frontière entre l'imagination et la réalité. Balzac passait sa vie dans un de ses romans, ou plutôt dans tous ses romans. Comme César Birotteau, il refaisait sans cesse l'addition de ses dettes et se débattait parmi les records et les usuries. Comme Rastignac et Rubempré, il rêvait de passer d'une belle maîtresse à un beau mariage qui solderait d'un coup tout son passif. Les intérieurs qu'il meublait pour lui-même ressemblaient à ceux de ses héros. Il ne pouvait pas plus que ceux-ci résister à l'attrait d'un tapis d'Orient ou d'un vase de Chine. De même qu'il faisait cadeau à des amis de chevaux arabes qui n'avaient jamais existé, il ne savait plus très bien si la comtesse Guidoboni Visconti était la maîtresse de Félix de Vandenesse ou la sienne propre. Il vivait sur 10 plans, et ses ardentes lettres à l'étrangère étaient sincères comme peuvent l'être des lettres de romancier, c'est-à-dire pas du tout. Disons qu'elles étaient sincères dans le sens balzacien du mot. Evanska, elle, ne savait pas traduire cette langue des dieux. De Paris, où elle avait des parents et des amis, elle recevait d'autres lettres qui ne lui parlaient que trop des bonnes fortunes de Balzac. Il se défendait en affirmant qu'il menait une vie de cénobite et en énumérant des chefs-d'œuvre, le père Goriot, Séraphita, les mémoires de deux jeunes mariés, le Lys dans la vallée. Comment aurait-il pu les écrire s'il n'avait travaillé jour et nuit? Et où diable, un homme qui ne quitte jamais sa table de travail, trouverait-il le loisir d'avoir des maîtresses? Cela paraissait vrai, seulement tout de même il en avait, cela se savait, et en 1835, Madame Anska, qui après Florence et Trieste avait gagné Vienne, lui écrivit qu'elle allait rentrer en Ukraine sans le revoir. La lettre était irritée, probablement à cause de Madame Guidoboni Visconti. Balzac craignit une rupture et partit pour Vienne. Il y vit sa maîtresse, il essuya des reproches, il jura que tout était faux. Elle était ardente et il eut vite fait de la reconquérir. Mais cette fois, le bonheur fut moins complet qu'à Genève. Elle doutait de lui, non sans raison. « Ne m'abandonne jamais, lui écrivit-il, ce serait un assassinat. Ne détruis jamais la confiance qui est notre seul bien complet dans cet amour si pur. N'aie pas de jalousies qui n'ont pas de fondement. Tu sais combien les malheureux sont fidèles, les sentiments sont tout leur trésor, leur fortune. et ne pouvons pas être plus malheureux que nous ne le sommes ici. Rien ne peut me détacher de toi. Ici se pose un problème, un des nombreux problèmes soulevés par cette longue liaison. Pourquoi, au fond, Balzac s'obstinait-il? Pourquoi aimer à Paris par une femme, par des femmes, de caractère bien plus souple, écrivait-il si fidèlement d'interminables lettres à une étrangère qu'il ne voyait que rarement, qu'après ce séjour à Vienne, il ne verra plus pendant 8 ans? On entrevoit trois explications. La première, c'est que malgré les infidélités, il avait probablement pour elle un authentique amour. Evelyne lui avait donné de grands plaisirs physiques, les premiers peut-être qu'il ait connus avec une femme jeune et belle, et aussi de grands sujets de fierté. Elle lui avait apporté la revanche au moment où il en avait besoin. Donc le corps et le cœur de Balzac lui en demeuraient reconnaissants. La seconde explication, c'est que sans souhaiter la mort du mari, sans jamais en parler, il y avait tout de même à l'arrière-plan cet espoir, un mariage, une immense fortune. La troisième explication, et la meilleure, c'est que cette maîtresse lointaine, isolée du dangereux milieu de Paris, faisait une confidente parfaite et secrète. Balzac a besoin de parler devant un auditoire sympathique de ses dettes, de ses rentrées d'argent, de ses projets littéraires. Il lui faut un public, et un public féminin. Or, Madame de Berny meurt en 1836, et longtemps auparavant, elle est en fait hors du monde. Bien sûr, il a sa sœur, Lord de Surville, il a son ami Zulma Caro, mais elles sont trop proches, trop averties, trop critiques. Et en outre, Evelyn Hanska, qui a le goût des lettres, des idées, des loisirs, exerce sur la pensée de Balzac une influence que celui-ci juge heureuse. C'est bien curieux, cet amour à distance entre deux êtres qui ne se verront pas pendant si longtemps. À la vérité, c'est surtout Balzac qui est le correspondant fidèle. À l'étrangère, il raconte la genèse de ses livres, il lui donne des nouvelles du monde littéraire parisien, il lui fait l'affreux tableau de ses dettes et de sa lutte désespérée contre les créanciers. Elle répond, sans doute, mais très peu, trop peu. En juin 1841, il se plaint de n'avoir pas eu de nouvelles d'elle depuis 6 mois. Oh, que cela est mal, quand on est aimé comme vous l'êtes par moi, quand vous êtes seul dans ce cœur avec la misère et le travail qui sont deux incorruptibles gardiens. Pas si incorruptibles que cela, semble-t-il, car ils n'ont pas interdit à Balzac d'aller avec une nouvelle maîtresse, Hélène de Valette, chercher à Guérande le décor dont il aura besoin pour Béatrix. Mais cela ne l'empêche pas de se plaindre du silence de Vierschovnia. Monsieur de Hensky lui-même ne vous a-t-il pas dit, écrit-il à sa maîtresse, pourquoi n'écrivez-vous pas à ce pauvre garçon? À quoi elle répond en lui envoyant une peinture de sa grande maison russe, qui semble un palais digne de Versailles, et en l'invitant à y venir. Mais comment le malheureux ferait-il ce voyage, qui coûterait 1000 écus, quand il vit au jour le jour et publie coup sur coup Le curé de village, Les mémoires de deux jeunes mariés, Une ténébreuse affaire. 6 mois sans m'écrire, lui dit-il, j'ai toujours des raisons valables pour mon silence, mais vous n'en avez pas pour le vôtre, ingrato cuore. Cœur moins ingrat peut-être qu'oublieux. La prodigieuse imagination de Balzac sait évoquer à distance le fantôme de cette Ève passée. Mais Evelyne elle-même est sans génie. Elle vit dans le présent, dans son métier de châtelaine, dans les devoirs envers les voisins, dans les soins à donner à son vieux mari. Elle est heureuse sans doute de recevoir de Paris tous les mois une chronique brillante qui nourrit sa conversation. Elle se souvient avec plaisir des nuits de Genève et de Vienne. Elle fait de temps à autre une scène de jalousie par lettre parce que c'est un moyen de justifier son silence. Elle demande pour sa collection des autographes de toutes les célébrités françaises et son grand homme les sollicite avec dévouement. Mais il ne semble pas qu'elle attache à l'amour de Balzac une importance dramatique. Il faut penser que Balzac, en ce temps-là, n'est pas encore le géant incontesté que nous admirons aujourd'hui. Il est l'un des plus attaqués des écrivains de son temps. Les critiques le disent immoral et le traitent en auteur de romans feuilletons. Seuls quelques grands esprits, Hugo, Stendhal, George Sand, quelques lectrices, reconnaissent son génie. L'admirent, certes, par instinct, Mais quelquefois, elle dit, ce pauvre Balzac. Et la liaison se traîne ainsi de poste en poste jusqu'en 1841. Le 10 novembre de cette année, le mari, Venceslas Hanski, meurt, et chose étrange, et en somme coupable, la veuve n'en informe pas tout de suite l'amant qui a persisté pendant ces 8 années de séparation à se croire son futur époux. Et c'est le 5 janvier seulement qu'arrive à Paris une première lettre bordée de noir. Aussitôt, l'amour de Balzac rebondit et son imagination part en campagne. Il a sous les yeux, dans son cabinet de travail, une lithographie qui représente ce magnifique château de l'Ukraine dont il va, pense-t-il, devenir le seigneur. Et le voilà qui s'abandonne à une sorte d'auto-griserie. Il oublie de bonne foi que le lien en 8 ans s'est desserré entre l'étrangère et lui-même. Ce mariage va se faire, il en est certain, il sera riche comme Crésus, des millions de roubles, des océans de blé. « Si je ne suis pas grand par la comédie humaine, écrit-il à Lord de Surville, je le serai par cette réussite. » Il pense à ce mariage, le sien, comme il penserait à celui d'un de ses personnages. Proust, dans une brochure récemment publiée, l'a très bien montré. Dans les lettres à sa sœur, dit Proust, où il parle des chances de ce mariage avec Madame Hanska, non seulement tout est construit comme un roman, mais tous les caractères, sa sœur, son beau-frère, sa mère, deviennent les personnages du roman qu'il vit et dont le titre serait « Un grand mariage ». Et soudain, de très bonne foi, il se croit plus amoureux que jamais de cette femme dont il s'est si bien passé depuis Vienne. Ce ne sont plus des lettres, ce sont de véritables journaux qu'il envoie en Russie. « J'aime, j'aime uniquement et j'espère, je ne veux pas que vous ayez de tristesse, je veux que vous sentiez tout ce que vous êtes pour moi, mais je veux aussi que vous sentiez tout ce que je suis pour vous. Il y a quelque chose de fixe et d'immuable dans mon cœur qui doit donner de la force à ma chère compagne. Il lui rappelle de tendres souvenirs. Je revois le sentier de Diodati. Diodati, c'est la maison de Genève, la villa Diodati. Le sentier où les cailloux de l'allée du milieu du jardin, de la maison Mirabeau où nous nous promenions, où un certain accent, une certaine pression de main presque enfantine en regardant des gravures. Si vous saviez quelle est sur mon âme la puissance des souvenirs matériels comme le tapis à carreaux, les malachites, le canif, vous connaîtriez l'espèce de bonheur qu'on peut avoir dans les ténèbres du cœur appelé absence. En vérité, il a l'air d'aimer comme un collégien de 15 ans et il affirme que le travail l'a conservé très enfant. Mais alors, les autres femmes, toutes celles dont Evelyne a tant entendu parler, et cette belle comtesse de Versailles, et Hélène de Valette, et Madame de Castres, oubliez, rognez, vivez sans inquiétude, lui dit-il, ne vous tourmentez pas, ni de Versailles, ni de l'avenir. Versailles est à jamais maudit depuis longtemps. Ingratitude et légèreté, telle est l'histoire de Versailles. Quant à Madame de Castres, devenue enfin duchesse, m'invite à dîner pour jeudi. En voilà encore un fameux Versailles. Alors si vous saviez comme elle est laide, celle-là, je me demande comment jadis aux eaux d'Aix. À ces sacrifices humains, Madame Hanska répond peu et mal, avec une lenteur paresseuse. Nous n'avons pas ces lettres qui ont été détruites, mais nous savons, par celle de Balzac, qu'elle demeurait aussi rare qu'au temps où son mari lui reprochait de ne pas écrire à ce pauvre garçon. Savez-vous que je suis dans de mortelles inquiétudes? Voilà 3 jours que j'attends une lettre et qu'elle ne vient pas. Vous devriez bien, ma chérie, m'envoyer une lettre toutes les semaines. J'ai plus de soin de vous que vous de moi. De là, on a conclu qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne l'avait jamais aimé. C'est jugé beaucoup trop vite. Il faut essayer d'imaginer ce que pouvait penser cette Ève Hanska dans son lointain château d'Ukraine. En somme, elle s'était attachée à cet homme de génie chaque fois qu'elle l'avait rencontré. Elle avait eu quelques peines à s'accoutumer, à sa corpulence, à ses éclats, mais elle avait toujours eu la plus sincère admiration pour l'œuvre, et cette admiration avait été le premier ressort de leur amitié. En outre, elle avait toujours eu un goût authentique pour l'amant. Seulement, en 8 années de séparation, elle avait appris à se passer de lui. Evelyne a maintenant 42 ans, c'est plus tout à fait une enfant. Dans son immense domaine, elle se sentait à 100 lieues de ses aventures du cœur. veuve du maréchal de la noblesse, personnage fort important, responsable de sa jeune fille, entourée de parents et d'amis de son mari, l'œil fixé sur un certain oncle Tamerlan dont elle guettait le fabuleux héritage, suzeraine de 4000 âmes, très pieuse, familière de l'évêque et de nombreux prêtres, elle portait sur ses blanches et grasses épaules un poids très lourd d'obligations. Que penseraient ceux qui formaient alors son entourage d'un mariage avec un écrivain français très célèbre, sans doute, mais prodigue, inconstant, peu sûr? Elle osait à peine y penser. Et puis, il y avait la situation financière qui inquiète toujours les femmes mûres parce qu'elles ne se sentent pas de force à lutter sur ce terrain et parce que la peur de manquer est un attribut de l'âge. Le comte Anski avait légué la nue propriété de ses biens à sa fille Anna, à sa veuve, l'usufruit. Elle ne pouvait abandonner l'administration du domaine tant que sa fille ne serait pas mariée et protégée. Alors, que dirait le tsar si elle, polonaise, donc suspecte, prétendait épouser un étranger et aller vivre à Paris? Mais le tsar ne lui laisserait certainement pas sa fortune, et Balzac pouvait-il y suppléer? Il promettait un avenir merveilleux. Il viendrait à elle, disait-il, sans un liard de dette. Il serait député, pair de France, membre de plusieurs académies. Mais cela, c'était le rêve. En réalité, lui-même, dans chacune de ses lettres, décrivait l'effort titanesque qu'il devait faire pour se maintenir à flot. C'était à grand-peine qu'il bouchait chaque mois un trou dans son budget par un roman. Il était follement dépensier et ne pouvait résister au désir de posséder un tableau, une tapisserie. Elle, au contraire, jamais prodigue, la prodigalité n'est pas un défaut de riche, acquérait, depuis la mort du comte Anski, ce goût de l'économie qui est un trait de tant de veuves. Bref, elle était touchée par le rappel des beaux jours, par le souvenir des caresses, par les enfantillages du grand homme qui l'a nommé son loulou, mais elle voyait bien qu'il ne serait jamais un mari de tout repos. Ce chapitre avait jadis eu son charme. Il était clos, elle jugeait plus sage de ne pas le rouvrir. Dans la première lettre qu'elle écrivit à Balzac après la mort de M. Anski, il n'y avait pas une phrase tendre. Et il se plaignit. J'aurais voulu deux mots pour moi dans cette lettre, je les ai cherchés en vain. Deux mots pour celui qui, depuis que le paysage où vous vivez est devant ses yeux, n'est pas resté en travaillant 10 minutes sans le regarder. Était-ce vrai? Peu importe, il le croyait au moment où il l'écrivait. Mais vraiment, elle ne l'encourageait pas. Elle ne pensait plus à l'épouser, elle ne lui pardonnait ni ses passades, ni ses dettes. Surtout, elle ne voulait pas qu'il apparût soudain en Ukraine, où l'arrivée de cet étranger retentissant eût achevé de gâter ses affaires avec le tsar et la noblesse des environs. Balzac fut atterré. Lui, débauché, quand il éloignait au contraire toutes les femmes par sa vie d'anachorète, mais elles eussent été des centaines s'il l'avait voulu, à s'offrir au plus grand poète du cœur féminin. Seulement les femmes vont à l'homme qui leur donne sa vie, et il avait donné la sienne à son loulou, 8 pages de lettres par jour, plus de 1000 francs de copie, lui disait-il, et à son travail surhumain. Mais est-ce qu'elle ne comprend pas qu'il entasse les chefs-d'œuvre? Il prononce lui-même le mot, et comme il a raison, nous ratifions son jugement. Savez-vous ce que c'est que 5 romans à faire, et des romans tels que ceux que je vais faire? Est-ce qu'elle croit aux ragots qui le décrivent comme amoureux d'une autre? Il écrit Albert Savarus pour lui montrer comment une calomnie trop facilement accueillie peut ruiner un grand bonheur. Bref, il est plus amoureux que jamais et refuse de renoncer à son beau mariage. Enfin, en juillet 1843, il peut aller en Russie et rejoindre à Saint-Pétersbourg sa bien-aimée. Il y séjournera de juillet à septembre et là, refera la conquête d'Evelinanska. Elle est venue à ce rendez-vous pleine d'appréhension. Elle n'est plus jeune, lui non plus. La société qui les entoure n'est pas favorable à leurs amours. Et pourtant, celui-ci s'impose à nouveau dès qu'il se revoit. Il faut lire dans le beau livre de Marcel Boutron les inscriptions qu'ils font l'un et l'autre sur leur album. À Pétersbourg, en cet été, qui fut pour eux un été de la Saint-Martin, ils ont donc retrouvé leur amour là-dessus, point de doute. Ces deux êtres, qui ne sont plus jeunes, ont conservé l'un pour l'autre le même attrait physique et sentimental. Balzac, surtout, reste un véritable collégien. Par exemple, il se fait un essuie-plume d'un morceau de corsage qui a été porté par sa maîtresse. Et cette loque noire le transport d'ivresse. J'ai pleuré comme une bête, dit-il, en pensant que j'allais faire servir à essuyer l'encre de ma plume ce qui a contenu pendant quelque temps les battements du cœur le plus accompli du monde. Elle lui envoie une miniature d'elle-même. Voilà un vrai chef-d'œuvre, dit-il, on peut causer avec ça. Vous êtes l'adorable enfance que je n'ai jamais eue. Vous êtes ma vengeance de tout ce que les dédains de Madame de Castres m'ont fait souffrir. Vous êtes mon seul amour, mais vous êtes surtout et par-dessus tout la sainte et noble et dévouée créature à qui l'on confie toute sa vie et tout son bonheur. Vous êtes le phare et l'étoile heureuse, vous êtes et plaisir et honneur. Telles sont les litanies qu'il chante chaque soir sous une forme nouvelle, sans jamais se lasser. Lui qui a 10 romans à faire, eh bien, que Vertchovnia ne réponde guère. Et pourtant, elle aussi s'est laissée reprendre avec une vraie joie. Mais dès qu'elle est loin de ce diable d'homme qui lui fait tout croire quand il est là, elle a de nouveau peur de l'avenir. En Ukraine, au retour de Pétersbourg, elle a trouvé son domaine mal géré. Balzac se propose comme administrateur des biens de sa future femme. « Oh, il ne serait pas embarrassé, lui, dit-il, pour faire fructifier des capitaux. 20 projets se pressent sous sa plume. Achat de terrain, fourniture de blé ukrainien à la marine française. Ces chapitres d'une nouvelle version des paysans terrifient Ève la prudente. Et pourtant, elle lui confie une somme assez importante pour payer les dettes les plus pressantes et pour acheter une maison. Ce sera un premier pas vers la communauté des biens. Balzac baptise cette somme qu'elle lui a confiée le trésor Loulou. Pendant 4 ans, ce trésor sera l'objet des plus extraordinaires opérations. Il le place en action du Nord. Aussitôt, les titres baissent. Et il faut emprunter chez Rothschild pour ne pas vendre en perte. Et voici le trésor Loulou vide, ou plutôt riche seulement d'une créance sur Monsieur de Balzac, que Gobseck n'aurait pas payé très cher. On est en pleine fantasmagorie, et on comprend tout de même un peu les craintes de la veuve de Vertchovnia. Aussi demeure-t-elle réticente. Elle n'est pas certaine de souhaiter que ce roman ait une suite. Dans ton avant-dernière lettre, lui écrit le malheureux Balzac, tu me proposes gracieusement, avec ces formes russes de ton style, en ces occurrences, un petit congrès où les deux grands loups auront à décider s'ils s'aiment ou ne s'aiment pas. Ceci, ma chère dame, est un plus grand crime que ceux que vous vous complaisez à me reprocher, car moi je n'ai jamais eu besoin de consulter là-dessus, et depuis 33, je vous aime comme un fou. Le petit congrès eut lieu à Dresde en 1845. Il eut pour objet essentiel non de décider si l'on s'aimait, cela devenait très clair dès que l'on était ensemble, mais d'annoncer à Balzac les fiançailles d'Anna, fille du loulou, avec le comte Georges Mnisek, et de lui présenter le fiancé. Evelyne est enceinte. Et voilà Balzac aux anges. Quelle joie d'avoir d'elle un fils. On le nommera Victor Honoré, et Victor Honoré va rendre le mariage nécessaire. Elle-même souhaite maintenant que la cérémonie puisse se faire secrètement le plus tôt possible et que l'acte soit antidaté pour que le mariage semble antérieur à la grossesse. Balzac, bien qu'épuisé de travail, vient de terminer La Cousine Bête, court à Metz, où il a des amis dévoués, le préfet de la Moselle, Germaud, et le procureur du roi de la Croix, deux auxiliaires indispensables. On a aussi là un maire discret et obéissant qui se contentera de quelques pièces d'identité. Les publications seront faites puisque c'est légal, mais on les recouvrira la seconde suivante d'autres. Le mariage se fera la nuit chez le maire et on ira demander la bénédiction nuptiale soit à l'évêque de Metz, soit au curé de Pesse. Le 13 octobre 1846, Anna, la fille, épouse Georges Mnisek à Wiesbaden, mais l'autre mariage continue d'être retardée. Malgré sa grossesse, Madame Anska, maintenant enceinte de 5 mois, soulève 1000 objections. C'est en partie la faute de Balzac, qui ne cesse de lui envoyer d'interminables listes d'achats faits par lui et de demander de l'argent. Que tu me donnes encore 7 à 8 000 francs, je te les rendrai en janvier. J'ai besoin absolument de 12 à 15 000 francs en novembre. Il a enfin conclu le marché pour la maison qui sera celle du couple rue Fortuné, aujourd'hui rue Balzac. Ce bel hôtel coûte 100 000 francs avec le mobilier. Naturellement, il n'a pas cette somme. Il compte qu'Ève en payera sa part. Il faut penser que Madame Ascal lui avait déjà donné au moins 200 000 francs or, c'est-à-dire même une 40 millions de notre temps. On comprend qu'elle éprouve quelque inquiétude. Mais il y a une autre cause d'atermoiement que, me semble-t-il, on n'a pas signalé et qui me paraît capital. Balzac lui écrit « Nous pourrons très bien nous marier à Passy. Les actes de décès de tes pères et mères sont inutiles, mais ton acte de naissance est indispensable. Il faut le demander et l'avoir absolument. Dans aucun pays, on ne marie sans cette. » Et elle prétend ne pas pouvoir se procurer son acte de naissance, ce qui est tout à fait invraisemblable. Mais nous, nous comprenons très bien son embarras. Depuis qu'elle connaît Balzac, elle s'est rajeunie de 6 ans. Elle ne peut pas lui montrer un acte. On dira, bon, bah, elle n'a qu'à lui avouer en riant son mensonge. Mais c'est qu'il s'agit là d'un type de mensonge qu'une femme de 46 ans n'avoue pas en riant, à moins qu'elle n'ait un cynisme gai qui n'est pas du tout dans la nature de Madame Hanska. Moi, je l'imagine très bien reculant devant cette révélation. Et en fait, à partir de cette demande d'acte de naissance, elle bat en retraite, elle décide d'accoucher secrètement, de confier l'enfant à Balzac, de retourner en Ukraine et de reconnaître Victor Honoré dans un acte de mariage ultérieur. Balzac est navré, j'ai rêvé d'un bonheur qui s'éloigne encore, j'ai pleuré en lisant ta lettre, j'ai pleuré comme une madeleine, maintenant je n'ai plus de goût à rien, et qui sait ce qui nous arrivera dans un an ? En novembre 1846, Victor Honoré naquit avant terme et non viable, si jamais il y avait eu un Victor Honoré. Il le trouve différent de ce qu'il attendait. Le château était bien un palais et le domaine une province. Il y avait 300 domestiques, mais la rue Fortunée était plus confortable. Une seule lampe carcelle dans toute cette immense maison. Des poêles chauffés à la paille. Comme tous les Français à l'étranger, il trouva la nourriture exécrable. Quant à la fortune, il apprit en arrivant que Madame Hanska avait fait don à sa fille, ce qu'il avait d'ailleurs lui-même conseillé. Mais il se dit ravi de voir ainsi son amour purifié de tout intérêt. Mais il constata que ses riches amies elles-mêmes avaient grand-peine à soutenir leur immense train de vie. Tout le monde a des ennuis. Pourtant, il fut heureux en Ukraine. Il mena une existence douce et familiale, travaillant comme à Paris. C'était merveilleux d'être délivré des soucis du ménage, des créanciers. La troupe était gaie, les jeunes gens s'attachaient à lui. Bien que fort malade, il travailla. Et quand il repartit en février, il emportait une somme importante que lui avait donnée son Evelyne pour sa part de son installation rue Fortuné. Il arriva à Paris quelques jours avant la révolution de 48, en pleine agitation politique. Balzac n'aimait pas Louis-Philippe, mais il aimait encore moins les révolutions. Un monde finissait qui avait été le sien. Il avait peint de couleurs très noires la monarchie bourgeoise, mais enfin il l'avait bien connue. Ce qui venait après elle lui échappait. Dans la grande peur de 1848, les romans ne se vendaient plus, les théâtres étaient vides, les actions du Nord dégringolaient. Le cœur ne va pas, ni la vue, il voit double et ne peut travailler. Il dîne chez la duchesse de Castres, elle est affreuse, dit-il, c'est un cadavre. Mais lui aussi, il est un cadavre. Il n'a plus qu'un rêve, retourner en Ukraine, retrouver cet asile. Il a le dégoût de tout ce qui n'est pas notre vie à deux. Je ne vois plus Paris des mêmes yeux. Et le voilà reparti pour la Russie. À la vérité, ce n'est plus d'une maîtresse qu'il a besoin, ni même d'une épouse, c'est d'une garde malade. Il faut dire à l'honneur de Madame Hanska qu'elle s'en rend compte, qu'elle a pitié et qu'elle accepte cette charge. L'état du cœur de Balzac est alors tel que le moindre choc déclenche une crise de suffocation. Il ne peut ni marcher vite, ni parler en marchant. Elle le guide dans ses promenades. Le soir, elle le fait glisser sur le lac dans un traîneau qu'entourent des cosaques porteurs de torches. Elle lui fait don d'une robe de chambre en thermolama, admirable étoffe circassienne. Les enfants sont pour lui filiaux et tendres. Ce long séjour, septembre 48 à avril 50, fut certainement pour le grand homme un répit. La seule chose dont j'ai soif, c'est la tranquillité absolue, la vie intérieure et le travail modéré pour finir la comédie humaine. Nous savions depuis longtemps qu'il avait travaillé en Ukraine aux députés d'Arcy. Une récente publication vient de nous révéler qu'il y écrivit aussi le début, encore inédit, de La femme auteur, qui le montre en pleine maîtrise et nous fait regretter amèrement que ce livre en soit resté aux premières pages. Mais surtout, il demeurait obsédé par son mariage. De plus en plus, cette histoire ressemblait à un de ses romans. Un héros de Balzac a toujours une idée fixe à laquelle il sacrifie tout le reste. Grandet, l'or, montrez-vous la passion d'une femme, Hulot, le plaisir, Lisbeth Fischer, la vengeance. Balzac voulait son grand mariage avec la même force terrible et douloureuse. Elle hésitait encore. Bien sûr, elle avait de la tendresse pour lui. Se dévouer pendant 18 mois à un hôte infirme, soigner un malade, l'imposer à un milieu hostile, c'est un faisceau de preuves d'amour. Mais si elle aimait l'homme et admirait son génie, elle avait peur de ses folies. Et puis, les lettres qu'il recevait de sa mère, de sa sœur, effrayaient un peu Madame Hanska. Ce fut la religion, ou si on préfère, la charité chrétienne, qui amena la solution. Madame Hanska eut pitié, fut charitable, il n'y a pas d'autre explication. Car comment parler de sensualité quand il s'agit d'un homme qui ne peut respirer qu'appuyé à des oreillers et assis dans son lit, qui perd ses dents, qui suffoque à la moindre parole dite sur un ton élevé? Qu'a-t-elle à gagner à ce mariage? Elle épouse 100 000 francs de dette. Elle sait qu'il lui faudra traverser l'Europe avec un moribond et qu'elle sera bientôt veuve. Le prestige du nom illustre, elle l'a déjà. Et le mariage n'ajoutera rien à ce que lui donna l'amour. Non, elle veut authentiquement adoucir les derniers mois de ce mourant passionné. Nous en avons une preuve dans une lettre à son frère, le comte Adam Jevouski, auquel elle venait d'annoncer son prochain mariage avec Balzac et qu'il avait adjuré de revenir sur sa décision. Non, non, je dois quelque chose à l'homme qui a tellement souffert par moi et dont j'ai été l'inspiration à la joie. Il est malade, ses jours sont comptés, il a été si souvent trahi, moi je lui demeurerai fidèle en dépit de tout et malgré tout. Voilà un texte qui plaide pour elle mieux que tout commentaire. Enfin donc, après 17 ans d'attente, Honoré de Balzac va épouser Evelyne Hanska. Le tsar a envoyé son consentement. Seul l'évêque hésitait encore à raison de l'œuvre et de la vie de Balzac. Un saint abbé, l'abbé Victor Rozarovski, profondément respecté pour sa vie exemplaire, intervint et se chargea de confesser Balzac qui, après tant d'années vécues dans le péché et le scandale, avait besoin de faire sa paix avec l'Église. On imagine Balzac plaidant avec éloquence les faiblesses de la chair, mais se repentant avec ferveur et loyauté. Il avait au plus haut point le sens du sublime, il eut la chance de le trouver en l'abbé Rozarovski. Je vous félicite, madame, car monsieur de Balzac a une bien belle âme, dit celui-ci à madame Hanska après la confession. La cérémonie terminée, les deux époux regagnèrent le château et l'on se coucha de bonne heure, car Balzac était épuisé. Les nouveaux mariés allaient-ils rester en Ukraine ou rentrer à Paris? Ce grand voyage en berline sur de mauvais chemins était bien dangereux, mais il avait des affaires à régler. Et surtout, quel triomphe que de montrer sa femme à tous ceux, famille, amis, rivaux, qui avaient douté de ce mariage. Ils partirent en avril 50, tous deux malades. Les étouffements sur la route furent terribles, elle le soigna. Tout le monde connaît l'histoire du retour rue Fortuné, de la maison illuminée, du valet de chambre devenu subitement fou. C'était de plus en plus un roman de Balzac. Il citait souvent un proverbe arabe ou turc. Quand la maison est finie, la mort entre. Sa maison était achevée, le souhait de 17 années exaucé, les dettes allaient être payées. Il était naturel que la mort vint frapper à la porte. La vie semble ne vouloir rien de complet que le malheur. On la décrit à demi couchée dans un grand fauteuil, amaigrie, pâle, tombée cette superbe vitalité, épuisée cette exubérance joyeuse. Causer avec ma femme, disait-il aux visiteurs, moi j'écouterai. Cette lettre prouve que Madame de Balzac était alors fidèlement au chevet de son mari. Ce fut elle qui lui fit donner l'extrême onction. Ici, nous devons parler du récit imaginé par Octave Mirbeau. Récit scandaleux, que n'étaye aucun témoignage. Mirbeau prétend que tandis que Balzac agonisait, sa femme était enfermée avec un amant, le peintre Jean Gigou. Un amnésique, lorsqu'elle eut connaissance de ce texte, en exigea la suppression dans le volume sous presse, la 628-8, et l'obtint. Mais il ne s'agissait pas seulement de donner satisfaction à une octogénaire défendant la mémoire de sa mère, il s'agissait d'être juste. Madame de Balzac est rentrée chez elle, nous a dit Hugo. Oui, mais elle était rentrée chez elle épuisée, à bout de force, parce qu'il ne restait aucun espoir. Quelle vraisemblance que ce fût avec un amant, alors que la maison était pleine et que Surville, son beau-frère, veillait. Et comment cet amant aurait-il été gigou qu'elle n'avait alors jamais rencontré? Ceux qui la connaissaient bien parlent de son incomparable douleur. La mère de Balzac écrivit à sa bru « Dites-moi que vous aimez toujours un peu votre pauvre belle-mère en souvenir de celui qui nous était si cher. » Légataire universel de son mari, elle accepta cet héritage qui n'était qu'un formidable passif. Dans son testament, Balzac reconnaissait avoir reçu d'elle 130 000 francs. Mais de 1848 à sa propre mort, elle paya à ses créanciers plus du double de cette somme. Elle s'acquitta scrupuleusement du solde des dettes et servit une rente à sa belle-mère. Tout cela n'est vraiment pas d'une veuve joyeuse et ingrate. Que peut-on relever contre elle ? Que dans l'année qui suivit la mort de son mari, elle devint la maîtresse d'un jeune et médiocre écrivain Champfleury. Qu'elle fut ensuite, pendant 30 ans et jusqu'à sa mort, la maîtresse de Jean Gigoux, mauvais peintre mais grand séducteur. Mais je ne pense pas qu'on ait le droit d'exiger d'une femme une fidélité posthume. Sans doute serait-il plus beau et plus digne pour celle qui a eu l'honneur d'être associée à un grand destin, de se traiter elle-même comme ses veuves de l'Inde et de jeter toutes ses passions dans un imaginaire bûcher sur la tombe d'un épouse illustre. Mais Evelyne avait un tempérament de feu, elle n'avait pu, dès la rencontre de Genève, résister à Balzac. C'est beaucoup exigé d'une telle femme que de lui demander de sacrifier ses dernières chances de bonheur à la pureté d'une image. Hypocrisie du beau, aurait dit Balzac, qui ne croyait pas au dénouement heureux. Messieurs les jurés, mesdames, le moment est venu de conclure. Deux questions vous étaient posées. Madame Hanska a-t-elle rendu Balzac malheureux ? Madame Hanska a-t-elle trompé Balzac au domicile conjugal pendant son agonie ? Sur la seconde question, vous répondrez certainement non, parce que rien ne vous permet de répondre honnêtement oui, aucun témoignage, sinon un propos invraisemblable de Gigoux devenu vieux, propos d'ailleurs seulement rapporté par Mirbeau, qui est plus célèbre pour sa violence que pour son exactitude. Sur la première question, votre réponse sera plus nuancée. Certes, Madame Hanska, après la mort de son premier mari, a fait attendre Balzac près de 9 ans, mais elle avait de fortes raisons d'hésiter. Il lui cachait à peine qu'il convoitait les richesses colossales autant que la femme. Il se conduisait ouvertement de manière à mettre cette fortune en danger. Il avait été infidèle. Mettons-nous à sa place, n'aurions-nous pas temporisé ? Et n'a-t-elle pas racheté le retard par le courage de la décision ? D'ailleurs, notre question était, a-t-elle rendu Balzac malheureux ? Or, elle lui a donné pendant 18 ans exactement ce dont il avait besoin. Balzac était bon et tendre, il était aussi et avant tout l'esclave de son génie. Amitié, amour furent toujours sacrifiés à son travail. Il lui fallait une maîtresse pour occuper son cœur. Il était bon, au moins pendant la période créatrice, que cette maîtresse fût loin de lui pour laisser libre ses heures. Si quelque enchanteur amical avait essayé d'imaginer la femme souhaitable pour Balzac, je crois qu'il fut arrivé par déduction à créer à peu près l'étrangère, qui à la fois apaisait l'orgueil du romancier et respectait son labeur. C'est la plus grande qualité pour la maîtresse d'un homme de génie que d'être absente. On se souvient que Balzac, quand il meubla sa maison des Jardins, écrivit au charbon sur les murs, ici, tapisserie des Gobelins, ici, glace de Venise, ici, tableau de Raphaël. Après quoi, il se crut au milieu de chefs-d'œuvre et fut enchanté. De la même manière, cette maîtresse, presque imaginaire, puisque lointaine, lui permettait de charbonner dans ses rêves, ici, nuit d'amour à Paris. Ici, la voiture de ma femme nous emmène à l'opéra. Ici, tous les trésors de l'Ukraine mettent en fuite mes créanciers. Ici, tendre soirée conjugale dans le nid de la rue Fortunée. Il ne lui fallait rien de plus. Proust a raison. Ce beau mariage, c'était un roman qu'écrivait Balzac. Mais qui, mieux que lui, sut jamais que les meilleurs romans finissent mal ? Il avait montré dans La peau de chagrin que rien n'est plus dangereux pour l'homme qu'un souhait réalisé. À la minute où il eut vraiment sa princesse lointaine et les trésors de l'Ukraine, le dernier lambeau de La peau de chagrin, petit et mince comme une feuille de pervenche, s'évanouit. Mais auparavant, il avait pendant 18 années joui de ce désir et de cet espoir. Il leur avait dû de grands bonheurs d'imagination et la puissance de créer. Messieurs du jury, parce que vous aimez Balzac, vous acquitterez Madame Hanska.
C'était « Y a-t-il un mystère Eve Hanska ?» par André Mauroy. Une conférence donnée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 décembre 1951.